Jacques Matande est à la présentation.
Au sommaire de cette édition, à Mbandaka, une barge a coulé sur le fleuve Congo en aval de l'Isala. Plusieurs personnes seraient mortes, les précisions dans ce journal. Joseph Kabila à New York depuis hier dimanche, il va participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce journal, le propos de son ambassadeur itinérant depuis New York. Et puis suspension de la grève des enseignants par les deux syndicats SIECO et SINECAT, le coordonnateur des écoles catholiques, satisfait de la mesure mais il n'est pas d'accord que les enseignants exigent aux parents ce qu'ils n'ont pas pu obtenir du gouvernement. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Naufrage d'une barge sur le fleuve Congo à 80 km en aval de l'Isala, province de l'Équateur. Le MB Wonzombo de la société Sikotra a vu couler une de ces deux barges. L'accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier au village Bongela. Il y aurait plusieurs victimes. Les récits des circonstances de l'accident avec Paul Richard Malengela.
Selon les premières informations recueillies par téléphone sur place à l'Isala, le bateau avait quitté le chef-lieu de la Mongala le 14 septembre dernier. Au départ, le pousseur avait deux barges chargées essentiellement de 250 tonnes d'huile de palme embarquées par la Société des cultures congolaises, ainsi que d'une importante cargaison de produits vivriers. Parmi les passagers, il y avait aussi des militaires. C'est après quelques heures de navigation seulement que l'une des barges aurait coulé, précisément dans la nuit du 14 au 15 septembre dernier. Mais la nouvelle n'est parvenue à l'Isala que dimanche, le 18 septembre. André Boudumbu, président de la FEC l'Isala.
Exactement, ce matin, on vient de m'apprendre à ce que de différer. Le MB Wonzombo vient de perdre une barge de 250 tonnes chargée avec tout de palmes qui a été chargée au but Mongana de la CCC, Société M. Blattner. À l'intérieur, il y avait eu des militaires qui viennent du brassage à Kisangani pour la destination de Mbandaka et quelques passagers. Il y a eu des morts, mais je n'ai pas encore de précision.
Les causes de l'accident, ni aucun bilan n'était encore disponible jusque dimanche soir. Le commissaire fluvial de l'Isala, accompagné des policiers, s'est rendu aussitôt à Bongela, lieu de l'accident, pour s'enquérir de la situation. Entre-temps, c'est le suspense au sein des familles des passagers à bord du MB Wonzombo. Mbandaka, Paul Richard Malengela, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, le chef de l'État congolais a quitté hier dimanche Kinshasa pour New York. Dans cette métropole américaine, Joseph Kabila va participer à la 61e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Selon Antoine Gonda, son ambassadeur itinérant qui se trouve déjà à New York, le président congolais interviendra à la tribune de l'ONU le mercredi 20 septembre entre 17h et 19h, heure de New York. L'un des objectifs de ce voyage est de fixer l'opinion internationale sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Depuis New York, Antoine Gonda, ambassadeur itinérant du chef de l'État, donne l'essentiel de la communication de Joseph Kabila. Il est joint au téléphone par Kelly Oukouté.
Il vient pour pouvoir démontrer à tous d'abord que le Congo reste uni et à montrer aussi sa détermination à pouvoir terminer ce processus tel qu'il avait annoncé depuis son avènement au pouvoir en 2020. En dépit des élections, et il ne va pas se cristalliser sur un épiphénomène. Et ici, au niveau des Nations Unies, c'est pour pouvoir parler du processus. Je crois que dès le départ, le chef de l'État a toujours été optimiste. Ce qui intéresse la population, ce n'est pas, les disputes, ce n'est pas les calomnies. Ce qui intéresse la population, c'est le projet de société. C'est comment est-ce qu'on est en train de voir l'avenir? Comment est-ce que l'avenir du Congo va pouvoir se construire? Comment attirer les investisseurs? Comment rassurer toute la communauté internationale qu'après les élections, le deuxième tour, nous n'allons pas rentrer à la case de départ? C'est ça cet objectif-là. C'est dans cet objectif, dans cette optique-là, que le chef de l'État vient pouvoir participer à cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Donc tout justement pour pouvoir casser finalement ces spéculations où on disait que le pays était partagé entre l'Est et l'Ouest.
Notez que Raymond Ramazani Baya, ministre congolais des Affaires étrangères, fait aussi partie de la délégation qui a précédé Joseph Kabila à New York. Processus électoral après le premier tour de la présidentielle, l'heure est aux alliances. L'Union des Mobutistes UDEMO, parti cher à Nzanga Mobutu, affirme avoir fait alliance avec le camp Kabila. D'après son secrétaire exécutif Alain Lubamba, l'alliance pour la majorité présidentielle AMP obtiendra la majorité parlementaire. De ce fait, l'UDEMO étant représenté dans cette majorité pourra répondre aux attentes de sa base. Alain Lubamba est joint au téléphone par MSA.
Le président
président national de l'UDEMO, M. Mobutu Nzanga, a déclaré dans une interview avec l'agence Reuters que lui et son mouvement expriment la volonté de prendre part à la majorité parlementaire et qu'il entend répondre aux attentes de sa base, puisque c'est le camp Kabila, que j'espère, autour duquel la majorité parlementaire va se dessiner. C'est que l'UDEMO, étant donné qu'il sera dans cette majorité, sera bel et bien avec l'AMP. Mais l'UDEMO n'adhère pas à l'AMP, mais sera avec l'AMP dans la coalition majoritaire au Parlement. Comme le président de l'UDEMO l'avait affirmé, il entend répondre aux attentes de son électorat en prenant part active au gouvernement. Vous savez que le fief principal de l'UDEMO, c'est l'Équateur. Et cette province veut bien avoir un interlocuteur dans le gouvernement qui sera mis en place pour la défendre valablement.
Vous écoutez Radio Capi, 7h05 à Kinshasa, ouvrant le dossier enseignement. Le coordonnateur des écoles catholiques s'est réjoui de la suspension du mouvement de grève des enseignants déclenché au début de la rentrée scolaire 2006-2007 par le CIECO et le CINECAT. La décision a été prise samedi dernier à l'issue de l'Assemblée générale tenue à la paroisse Pigis à Ngiringiri par les deux syndicats. Cependant, l'abbé Georges Moutipaï refuse que les enseignants se rabattent sur les parents pour obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu du gouvernement. Et on l'écoute.
Je me réjouis en même temps que je reste sur la réserve parce que aujourd'hui, lever le mot de grève, je veux bien, mais il faudrait pas que, au même moment, les enseignants se tournent vers les parents qui sont très appauvris pour leur dire que ce que le gouvernement ne peut pas faire aujourd'hui, il faut que vous le fassiez. Non, je ne suis pas d'accord.
Monsieur l'abbé, les enseignants qui étaient en grève ont déploré aussi le fait que dans certaines écoles catholiques, on continue à percevoir la motivation des parents, alors que eux voudraient voir les autorités appliquer l'accord de Moody.
Nous sommes déçus par le comportement de ces chefs d'établissement qui sont en fait complices de certaines autorités de la place. Ces autorités ont leurs enfants dans certaines de nos écoles. Elles ne veulent pas voir ces enfants à la maison. C'est que ces chefs d'établissement leur demandent, ils sont capables de le donner. Mais ce n'est pas tous les parents qui peuvent le donner. 90% des parents ne sont pas en mesure de donner ce que certains chefs d'établissement des écoles conventionnées catholiques demandent. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la souffrance des autres, mais qui sont de simples opportunistes. Ce sont des malhonnêtes.
L'abbé Georges Moutipaï, coordonnateur des écoles catholiques, a été joint par Péléki Pélamondo, ajoutant que les deux syndicats des enseignants ont affirmé que la suspension de la grève ira jusqu'à l'installation du nouveau Parlement, seul interlocuteur valable avec lequel ils pourront discuter de leurs revendications. Toujours au sujet de la rentrée scolaire, la notabilité de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, propose à nouveau que les systèmes de contribution de parents soient maintenus à l'instar d'autres provinces. Dans un communiqué signé par Constant Mokbema et Gilbert Bohonga, respectivement président et secrétaire des notables, ceux-ci soutiennent que les écoles fonctionnent sur base du protocole d'accord entre les parents d'élèves et les enseignants. Ceci pour sauvegarder la formation des élèves de l'Équateur, espoir de demain en attendant la solution définitive de la part du gouvernement. Position partagée également par l'Association des parents d'élèves catholiques, a indiqué M. Yvon Louandja, président provincial de la PEC Équateur. Direction province orientale avec ses conflits de compétences entre deux services placés sous tutelle du ministère de l'Énergie en Ituri. Il s'agit du service des hydrocarbures et du bureau de l'énergie du district. Les deux services revendiquent le droit de percevoir des taxes sur les produits pétroliers. Faute de compromis, le comité local de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, exige des documents avant de s'exécuter en faveur de l'un ou de l'autre des deux services. Jean-Paul Bissiliabo.
Arrivé à Bounia il y a juste des semaines, le responsable du service des hydrocarbures dit être investi par le ministère de l'Énergie pour gérer les taxes sur les produits pétroliers importés en Ituri. Dans un communiqué diffusé sur une chaîne de radio locale, son collègue du bureau de l'énergie proteste et invite les opérateurs économiques du secteur pétrolier à continuer de payer leurs taxes auprès de son service comme par le passé. Philippe Loleka, chef du bureau de l'énergie à Bounia, s'étonne de la nomination de son collègue des hydrocarbures.
J'ai représenté le ministère ici. Les services de hydrocarbures n'existaient pas. Depuis que mon collègue est arrivé, bon, je n'ai aucun document. Je ne sais pas ce que moi je dois faire parce qu'il vient de m'arracher les hydrocarbures. Il devrait quand même venir me voir et puis qu'on trouve un compromis d'ensemble.
Du côté du ministère de l'Énergie, la perception des taxes sur les produits pétroliers doit être effectuée par les services des hydrocarbures. Léon Tondo, secrétaire général à l'énergie, est joint au téléphone.
L'énergie n'a pas à se mêler dans les taxes des attributions des hydrocarbures. Moi, je suis à l'énergie, j'ai un collègue des hydrocarbures. Il s'occupe de tout ce qui est pétrole et dérivés. Moi, je m'occupe de l'eau et de l'électricité. Ce sont des petits intérêts qu'ils suivent. Il faut lui dire qu'il n'a pas le droit de chercher à recouvrer des taxes sur le pétrole. Il n'a qu'à s'occuper de ce qui est électricité et de ce qui est eau.
Face à cette situation, le comité de la Fédération des entreprises du Congo en Ituri sollicite une rencontre avec les deux responsables pour être informés de leurs attributions respectives. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
À Kisangani, toujours en province orientale, la Société nationale d'électricité, SNEL, agence de la commune de Mangobo, appuyée par l'Agence nationale de renseignement ANER de cette commune, va en guerre contre les raccordements frauduleux. Plusieurs personnes accusées de cette pratique sont en train d'être entendues au bureau de l'ANER Mangobo. Des câbles utilisés pour voler le courant électrique sont saisis. Selon le chef d'agence SNEL Mangobo, cette opération va se poursuivre jusqu'à mettre fin à cette pratique qui perturbe la fourniture en électricité et décourager ainsi leurs auteurs. Des explications avec Anselme Massois.
Cette opération a débuté il y a 2 semaines passées. Durant cette période, affirme le chef d'agence de la SNEL Mangobo, le résultat est positif. Avec le concours de l'ANR, il enregistre ces derniers moments moins de plaintes de ses abonnés sur les coupures intempestives de l'électricité. Matongo Selemani, chef d'agence, explique pourquoi il sollicite le concours de l'ANR.
Avant-hier, je venais de faire une plainte ici contre mes amis des quartiers Lumbulumbu. J'envoie les gens pour les recouvrements. Au lieu de venir ici, ils s'abattent sur nos agents. On les tape. Qui de celui-ci a mené les mortiers, les malaxels, des foufous, tout ça, c'est pour bloquer maintenant que la SNEL ne puisse pas travailler parce qu'ils sont dans leur air. Alors, si la police, si le travail de l'ANER ne nous porte pas mes fautes, alors c'est l'entreprise qui va tomber.
Cette piraterie est favorisée par certains agents de la SNEL, ont dit certains abonnés de la commune Mangobo. Toutefois, ils encouragent la SNEL dans sa lutte contre cette pratique. Un responsable d'INSIERI parle des conséquences subies.
Le raccordement pirate, ce raccordement pirate nous cause beaucoup de difficultés car il y a une augmentation des charges à chaque instant. Souvent, les câbles se brûlent. Nous restons parfois 1 semaine, 2 semaines sans électricité. Ce sont ces travailleurs qui font le raccordement pirate dans les quartiers.
Les personnes accusées de cette piraterie pensent qu'il n'appartient pas à l'ANR de se substituer à la police de la SNEL et de leur faire subir des pénalités allant de 100 à 200 dollars d'amende. La SNEL doit prendre sa responsabilité, ajoute-t-elle. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, le Fonds social de la République vient de financer un projet d'assainissement de 32 sources d'eau dans la commune de Lukonga à Kananga. Coût du financement, 61 000 dollars américains. Un projet qui a pour objectif d'améliorer le bien-être social des populations en réduisant le taux des maladies d'origine hydrique. Une correspondance de Marie-Chantal Lumba.
Samedi, le gouverneur de province, Gilbert Tchongo, a posé la première pierre de la construction pour l'aménagement des sources d'eau. Une construction qui permettra de capter l'eau et de la protéger contre toute contamination par les animaux ou les personnes. Pour le médecin chef de zone de santé de Lukonga, l'assainissement de ces sources permet de prévenir les maladies dues à la consommation d'eau impropre. Selon le docteur Dieudonné Mwamba, la moitié des malades enregistrés dans sa zone souffrent d'une maladie d'origine hydrique. Docteur Mwamba ajoute qu'avec l'assainissement de 32 sources d'eau, le tiers de sa population pourra consommer une eau propre comme la régie des eaux ne dessert pas la totalité de la population. D'après le bourgmestre de la commune de Lukonga, les habitants ont contribué à 10% du coût du projet. Un apport local qui, selon le responsable du Fonds social de la République Banque mondiale, est une preuve que la population tient à satisfaire un besoin et aussi une condition incontournable pour le déboursement des fonds. Ce projet est le premier à être exécuté sur les 8 que compte financer le Fonds social pour un premier temps dans la province. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières, au Soudan, le premier vice-président soudanais, Salva Kiir, s'est clairement démarqué de son chef Omar al-Béchir en se prononçant pour l'envoi de casques bleus au Darfour. Le président soudanais Omar al-Béchir, lui, rejette un tel scénario, estimant qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté du pays. Salva Kiir, dont l'ancien groupe rebelle du Sud participe au gouvernement d'Union nationale, a affirmé dimanche que les forces de l'ONU étaient essentielles pour protéger les civils des atrocités commises par des milices pro-gouvernementales, les Janjaweed. Toujours en rapport avec le Darfour, le Premier ministre britannique a appelé dimanche l'Union européenne à jouer un rôle central dans le règlement du conflit au Darfour. Tony Blair a envoyé une lettre à ses 24 homologues de l'Union européenne ainsi qu'au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour leur demander instamment de contribuer à un cessez-le-feu durable dans la région. Tony Blair insiste sur la nécessité pour la communauté internationale de ne pas tourner le dos à cette situation tragique. Cette lettre de Tony Blair est envoyée le jour même où était organisée une journée internationale pour le Darfour. Plusieurs rassemblements organisés par une trentaine d'ONG en faveur de l'envoi des casques bleus au Darfour se sont tenus dimanche dans près de 50 villes du monde. Et puis le pape Benoît XVI a présenté personnellement ses regrets hier dimanche au monde musulman. Il s'est déclaré vivement attristé par la vague d'indignation soulevée par l'une de ses citations sur l'islam, citation traitant des rapports entre l'islam et la violence et qui, selon le pape, n'exprime en aucune manière sa pensée personnelle. Le pape n'a pas présenté les excuses formelles que réclamaient de nombreuses voix musulmanes, ce qui aurait constitué un fait sans précédent dans l'histoire moderne du Saint-Siège. C'est la fin de ce journal. Il a été mis en ondes par Jean-Claude Siala. Retrouvez-les sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, et bon début de semaine à tous et à toutes.